Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle et qui m'interpelle tous les jours dans ma propre existence, c'est que je pense souvent aux bontés de Dieu, je sais ce que Dieu veut faire, je sais ce que Dieu va faire, toute la Bible est là pour me le rappeler, mais qu'est-ce que toi tu aimerais bien? J'interpelle Dieu en lui disant, mais toi, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Quelle est ta satisfaction? Quelle est Je découvre avec le temps, et nous l'avons partagé souvent, que Dieu est un père. Vous, papa, vous, maman, parce que Dieu est en même temps père et mère, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous désirez avant tout dans votre relation avec votre enfant, avec vos enfants? Qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi. L'harmonie. Encore. Allez, vous êtes tous parents. Comment? Un retour d'amour. La relation harmonieuse. Mais je pense que ce que nous aimons, c'est le bien-être de nos enfants, ça c'est certain en tant que papa. Mais ce que nous aimons, c'est vraiment la présence de nos enfants. Moi, je découvre tout ça avec mes petits-enfants, par exemple. C'est tellement beau. Ces tout petits bouts de chou qui viennent et puis qui te disent, comme ma petite fille, Iloa, 4 ans, papé, je viens te faire un câlin. C'est émouvant, hein? Papé, je viens te faire un bisou. Papé, je t'aime. Mamoun, n'en parlons pas, c'est l'idole. Mais papé, je t'ai fait un dessin. Si j'avais 40 ans de moins, ça fait 54 ans que je connais le Seigneur, je referais les choses tout à fait différemment dans ma propre existence. Je changerais du tout au tout. Et sans aucune critique aucune, si j'avais une charge pastorale, je vivrais l'Église différemment. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand on est dans les Cévennes, sur la façade des temples, il y a toujours cette petite phrase, ma maison sera appelée une maison de prière. La prière. Pratiquer la présence de Dieu. Alors, j'ai un peu peur, c'est que ce que Dieu désire par-dessus toute autre chose, c'est ta présence. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu a tout fait pour cela. Dieu nous a cherchés, et on va voir au travers d'un texte. Dieu nous a cherchés. Dieu nous a trouvés. Dieu a quitté la gloire dans laquelle il se trouvait pour marcher sur cette terre qui était une véritable puanteur à cause de nos péchés. Dieu a fait toute cette démarche dans son incarnation, dans la personne du Christ. Mourir d'aimer, cette chanson. Il est mort d'amour pour toi, il est mort d'amour pour moi. Je suis jamais là. Et je ne vous cache pas, j'ai honte. Je ne vous cache pas, et je le dis en toute honnêteté. Si c'était à refaire, j'en ferais les choses différemment. Et j'ai honte de ce que Dieu a toujours été présent, de ce que moi je n'étais jamais là. De ce que Dieu cherche ma présence et moi je ne suis jamais présent. De ce que je perds un temps à des conneries. Encore en semaine, je me suis interpellé. J'ai regardé quelque chose, ça m'a pris 1 heure 15. J'ai dit, bon sang, ce temps-là, j'aurais pu le passer dans ta présence. Et si c'était à refaire, l'église, elle serait ouverte 24 heures sur 24. Et ça serait une maison où on pourrait prier nuit et jour. Être dans la présence de Dieu. Et ce qui va donner force, je pense, dynamisme, qui va donner des résultats qui vont être en honneur au Seigneur, c'est rechercher sa présence. C'est vraiment la condition Ben oui, elle est incontournable. Alors, on va lire un texte qui m'a interpellé cette semaine. Donc, n'y voyez pas dans certaines choses que je pourrais parler. Surtout, je voudrais n'introduire aucune culpabilité. Ça, c'est pas mon genre. Bien au contraire. Donc, nous allons faire lecture dans l'évangile de Luc. Bon, c'est un passage que nous connaissons bien. On va pas lire tout le chapitre pour gagner un petit peu de temps. Luc, chapitre 15. Premièrement, les versets 1 à 7. Qui nous donne le contexte dans lequel Jésus va ensuite apporter trois paraboles. On passera au sud de la drachme perdue, du fils prodigue, le fils perdu que nous connaissons bien. Mais on va prendre donc de 1 à 7 et ensuite nous lirons de 25 à 32. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et il mange avec eux. » C'est ce qui faisait dire, d'ailleurs, dans un texte, qu'on disait de Jésus, c'était un buveur et un osseur, dans le texte. Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis nous arrivons au verset 25, donc de ce même chapitre, qui est la réaction du frère du fils prodigue qui a dilapidé ce qui lui revenait au niveau héritage. Or, le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, ne voulut pas entrer, son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » J'aime beaucoup. Et quand ton fils, il dit pas quand mon frère, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, vas-y, ça tombe, hein, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici, il était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. J'ai une petite histoire, une petite fille. Un enfant rentra chez lui en larmes. Le grand-père courut à sa rencontre et le serra dans ses bras. L'enfant continuait à sangloter, le grand-père le caressait doucement, cherchant à le calmer. « Ils t'ont frappé ?» lui demanda-t-il. De la tête, l'enfant fit signe que non. « Ils t'ont volé quelque chose ?»« Non, » répondit l'enfant en sanglotant. « Mais alors, que t'est-il arrivé ?» dit le grand-père préoccupé. L'enfant renifla, puis raconta, « Nous étions en train de jouer à cache-cache, et moi, j'avais vraiment trouvé une bonne cachette, et j'étais là en train d'attendre. » Mais personne ne passait. Au bout d'un certain temps, je suis sorti de ma cachette et je me suis aperçu qu'ils avaient fini de jouer, qu'ils étaient tous rentrés chez eux et personne n'est venu me chercher. Les sanglots reprirent de plus belle en secouant sa petite poitrine. Tu comprends? Personne n'est venu me chercher. J'ai quelques petits mots. Cet épisode concerne tous les hommes de tous les temps et particulièrement ceux de notre génération. Tu t'es peut-être caché par peur, par lâcheté, par paresse, mais Dieu continue à te chercher. Dans la parabole, nous découvrons que Dieu est cela depuis le commencement de la création, ne cesse de chercher l'homme, tout simplement parce que l'homme est au cœur de son amour. et ça me réjouit. Vous êtes au cœur de l'amour de Dieu. Où es-tu, Adam ? Il se cachait. Dieu, déjà là, recherchait sa présence. Et là, nous pouvons exprimer notre gratitude. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous n'avons jamais cherché Dieu. Non, aucun d'entre nous. C'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous a cherchés, et c'est lui qui nous a trouvés. Et dans une petite phrase d'un dialogue entre Jésus et Pascal, Jésus dit à Pascal, tu ne m'aurais jamais trouvé si je ne t'avais d'abord cherché. C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui est venu nous rencontrer, c'est lui qui est venu nous appeler. Nous sommes cette brebis perdue qui se met en peine de chercher et qui l'a trouvée. C'est Dieu qui, au travers de Christ, nous cherche et nous trouve. Et nous cherche chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Nous découvrons, avec beaucoup d'humilité, que nous ne sommes à l'origine de rien. Que ce que nous donnons, nous l'avons reçu. Si j'aime, c'est parce qu'il me donne la capacité d'aimer. Et nous sommes aimés avant d'aimer. Je suis aimé avant d'aimer. C'est souvent difficile. Moi, j'ai très difficile à aimer. À me sentir aimé, pardon. C'est difficile. C'est mon éducation, c'est mon enfance. Au départ, toute l'affection de mon épouse, c'était de trop. Se laisser aimer par le Seigneur. Se laisser aimer. Et je voudrais vous dire pour cette année, laissez-vous aimer par le Seigneur. Acceptez cet amour. Cet amour qui ne demande rien en retour, si ce n'est votre présence. C'est tout. Et peut-être même pas votre amour. Simplement vous. Nous ouvrir à l'amour du Seigneur. En sachant que son amour, il est permanent, il est au quotidien, il n'est pas comme le mien. Un petit peu avec des variations comme cela. Heureux sommes-nous de savoir que nous sommes aimés jour et nuit. Je ne vous citerai pas tous les versets qui vous viennent certainement à l'esprit maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Rien. Rien, frères et sœurs. J'espère que ça réjouit déjà vos cœurs ce matin. Dans 1 Timothée, nous lisons que Jésus-Christ est venu dans le monde, 1 Timothée chapitre 1, verset 15, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et Paul d'ajouter, dont je suis le premier. Et nous allons y revenir après. Il est venu chercher des pécheurs. Et dans ce contexte-là, nous pouvons dire, et ça s'inscrit dans les projets que l'Église a, nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche et nous sommes son amour. Que cette première approche puisse changer, ouvrir notre regard et nos relations pendant toute cette année 2013. Là où le Seigneur vous a placé, vous êtes Christ en mouvement, Christ en action. Les gens religieux murmuraient, bien sûr. Jésus fréquentait les pécheurs, tous ces amas d'impureté mêlés de passion, de méchanceté, tous ces gens qui font horreur, tous ces gens sans espérance, tous ces gens sans salut, tous ces gens qui sont dans les ténèbres. C'est ceux-là que Jésus invite à manger. C'est ceux-là qu'il envoie chercher le long des chemins, derrière les haies où les gens se cachent parce qu'ils ont peur d'être vus. Alors j'allais dire, ne désespérons jamais, ne doutons jamais. Et dans cette année 2013, je vous encourage vraiment, ne doutez pas, soyez encouragés. Vous avez peut-être des gens autour de vous, peut-être dans votre famille. Combien des fois la famille, et je connais un peu le témoignage de certains, c'est difficile. Des enfants qui sont rebelles, des enfants qui s'éloignent, Dieu les cherche. Dieu veut les rencontrer. Vous avez des voisins, Dieu les cherche, Dieu veut les rencontrer. Nous sommes associés à cette recherche d'amour. Comme je le disais tout à l'heure et je le répète, Christ a quitté la gloire de son royaume pour chercher, sauver et pour mourir pour moi, pour vous et pour tous ceux qu'il recherche aujourd'hui. Alors, j'étais aussi interpellé par la disproportion de ces 99, de ces 99 justes dans le contexte. Bien sûr, c'est une parabole. Il est question aussi de personnes qui se croient justes. 1 Jean chapitre 1er verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Cela démontre un profond malaise. Non seulement je me trompe moi-même en prétendant être juste, mais je ne suis plus capable de discerner le vrai du faux. Le mensonge est devenu une seconde nature. Et là, il y a une démarche à effectuer. J'ai beaucoup aimé, Georges, ce que tu as dit tout à l'heure dans la présentation de la Sainte Cène. Je m'associe à 100%. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Un pécheur gracié. Mais je suis pécheur. Et c'est une grande différence de dire j'ai commis des péchés, mais je suis pécheur. Et quiconque a l'honnêteté de descendre au plus profond de lui-même et de se reconnaître comme tel, croisera le regard d'amour de Dieu. Croisera un regard de compassion et un regard de miséricorde. Et Luther a raison de parler de l'homme comme étant à la fois pécheur et aussi justifié. Je suis pécheur, justifié. J'avais une petite prière dans ce livre que je vais vous lire, très courte. C'est marqué, le titre « Rends-nous libres ». Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t'irrites de ce que nous trichions avec le péché. Tu ne t'étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles ou invisibles, mais tu entres en colère quand nous nous défilons. Tu refuses l'hypocrisie. Nous te le demandons, rends-nous libres par la confession de nos péchés, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de nos consciences et le repos de notre cœur. Je m'associe vraiment à cette prière. Lorsque Jésus appelle dans l'évangile de Matthieu, Pierre, la première action de Pierre, c'est de se jeter à terre. La présence de Christ, elle est là, et Pierre se jette à terre et dit « Je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. » Oh, il ne fait pas l'énumération de ses péchés. Dieu, Christ, non, lui demande même pas. J'aime beaucoup cette merveilleuse discrétion. Il ne le pousse pas à la confession. Ne crains point, Pierre. Je le sais. Tu es un homme pécheur. La présence du Seigneur est suffisante et apprend à Pierre que ce n'est pas à cause de ses mérites qu'il est sauvé, ce n'est pas à cause de ses mérites qu'il est appelé, mais c'est pure grâce. Puissions-nous vraiment le réaliser en permanence dans nos existences. Tout commence lorsque nous rencontrons Jésus. Quelles que soient les ténèbres qui ont obscurci ma vie, sa parole fait lever dans ma vie sa lumière et tourne nos regards vers l'avenir avec lui. L'attitude du fils prodigue, elle est claire. On n'a pas relu le texte, mais il le reconnaît. Il dit à son père qu'il est pécheur. Il lui dit « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Je dirais même que c'est un chrétien rétrograde. Souvent, on peut le relire d'une autre manière, le fils prodigue, parce que on en a fait souvent un sujet d'évangélisation. Mais si vous lisez bien, deux fils, le même père, la même paternité, sont sous le même toit, et puis l'un prend son indépendance. Et puis il dit, bon, ben moi, vous savez, j'ai vécu dans l'église, j'ai envie de vivre ma vie, je prends mon petit patrimoine. Eh bien, plutôt que de juger son fils, plutôt que de lui demander de rendre des comptes, Le Père qui n'est autre que Dieu dans cette parabole serre son Fils dans ses bras. Et comme quelqu'un l'a dit, le Père il a couru au devant de son Fils. Tout simplement pour ce que la maisonnée derrière, pour que les serviteurs ne voient pas le Père en train de pleurer dans le cou de son Fils et lui témoigner son amour. Prendre le chemin de la repentance, c'est pas seulement pour les païens. C'est pour moi, c'est pour nous. C'est aller à la rencontre de la grâce de Dieu. Pardonner, consoler sont les antibiotiques qui vont lutter contre le jugement. Vous avez vu déjà le métal en fusion? Nous, on appelle dans la société où je travaille des forgings, donc des pièces qui arrivent directement des forges. Elles sont dans un état pur. Il n'y a pas la moindre scorie ou parcelle. Par exemple, si on a des pièces en titane ou des pièces en inox ou des pièces en maragine, un alliage très particulier, c'est extraordinaire de voir quand le feu fait fondre cette matière. Il y a toutes des scories qui ressortent, toutes des impuretés qui remontent à la surface. Et puis ensuite, ces impuretés, elles sont brûlées, elles deviennent feu et elles disparaissent pour ensuite laisser place à une matière qui est absente de tout défaut. Et c'est important, bien sûr, dans le contexte de l'aviation. Eh bien, plus nous allons nous approcher de Dieu, et vraiment, je voudrais vous encourager, plus nous allons nous approcher de Dieu, plus nous allons vivre la présence de Dieu au quotidien. Le culte, c'est pas seulement dimanche matin. Le culte, c'est tous les jours. C'est tous les jours rechercher cette présence de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Eh bien, alors, nos péchés, nos impuretés, tout ça, ça va être brûlé par le feu de sa présence, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de sa parole. Plus nous verrons les ténèbres qui sont dans notre cœur, alors c'est à ce moment-là que la repentance trouve sa place, dans cette proximité de Dieu. J'allais dire, c'est presque le théorème de la vie spirituelle. C'est à ce moment-là qu'un changement intérieur va se faire en profondeur, au niveau de ce que je pense, au niveau de ce que je ressens, au niveau de mes projets, au niveau de mes sentiments. La métanéo, la repentance, elle est en route et va affecter toute ma conduite. Et Dieu, dans cette relation, s'engage avec toi et avec moi. Son amour est plus profond que mon état de pécheur. Et là où le péché a pu abonder, comme nous l'avons entendu dans la prière tout à l'heure, dans une des prières, la grâce va surabonder. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Quiconque a l'honnêteté de descendre en lui-même, abandonnant toute prétention devant Dieu et se reconnaissant pécheur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va croiser le regard d'amour du Seigneur. La repentance, c'est pas une impasse. Elle nous ouvre l'insondable amour de Dieu. Alors, une avant-dernière fenêtre, avant de conclure, qui pourra remettre peut-être des vraies valeurs à leur place pour l'année 2013, c'est l'attitude de ce fils aîné. « Voilà tant d'années que je te sers. J'ai toujours obéi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et puis je n'ai même pas eu un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Oui, notre frère doit partir. Et tout à l'heure, dans le souhait qu'il a exprimé, je lui dis, qu'est-ce que tu souhaites pour cette année? Être un peu plus près de Dieu. Comment? Grandir plus dans le Seigneur. Ben, je souscris à ça. Grandissons ensemble plus dans le Seigneur. Il y a une question qui est implicite dans le texte. Quelle sera la récompense pour moi qui te sert fidèlement? Aïe, aïe, aïe. Il semblerait que ce fils, il a une réaction de serviteur plutôt que de fils. C'est pas du tout la même chose. Lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur, est-ce que j'ai une réaction de serviteur ou une réaction de fils? Dieu donne comme un père. Donne à son fils. Mon enfant, tu es tous les jours avec moi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ce que Dieu donne à son fils, ce n'est pas un salaire, ni une récompense. Ce qu'il y donne, c'est tout. Tout est à vous. Ça ne désigne pas ce qui sera donné, mais ce qui est déjà à lui. Tout ce qui est à moi, dit Dieu, c'est à toi. Notre rétribution n'est pas fonction de la qualité de mon travail, la pertinence de mes prières, ma grande intelligence, ma théologie infaillible, ma sensibilité spirituelle, mais uniquement en fonction de l'amour que Dieu a pour toi, son fils, a pour toi, sa fille. Tout est grâce. Alors, en conclusion, peut-être, dans ces fenêtres que j'ai un peu ouvertes, qu'on pourrait développer encore davantage, l'année 2013 sera le produit de notre communion avec Christ. Communion d'amour, il est bon d'ajouter. Il ne peut y avoir d'autre communion que celle-là. Quand on est malade, les chrétiens, mais on est malade d'amour. C'est vrai. On est malade d'amour. Et peut-être que tous, on est malade d'amour. Parce que nous sommes trop loin. Parce que nous sommes jamais là. Souvent, et j'y souscris, les réunions de prière sont importantes. Qu'en est-il de ma vie de prière ? Qu'en est-il de ma vie de prière ? La prière est une rencontre. La prière, c'est un face-à-face. Le but de l'homme, c'est Dieu, et le but de Dieu, c'est l'homme. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour, ta pureté, que l'Esprit éternel englobe le mortel jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. J'ai entendu cette phrase, la prière, c'est la beauté de l'homme, de la femme, bien évidemment. Si elle est beauté, c'est parce qu'elle me plonge dans la beauté de Dieu. Et là, c'est un magnifique rayonnement. Chez certains saints, cela se voit. Je connais une personne, vous la regardez, c'est pas moi, vous la regardez, hein, Aline, on y voit la bonté de Dieu. On y voit la bonté de Dieu. Oh. Tellement cet homme simple est proche de Dieu. 24 heures sur 24, nuit et jour. Quand il rentre en contact avec un païen, il est évangélisé automatiquement. Parce que tout l'amour de Dieu passe, tout l'amour de Dieu traverse. Puissions-nous vraiment avoir ce message d'amour? Ce rayonnement d'amour, ce rayonnement de compassion, ce rayonnement de tendresse, ce rayonnement de miséricorde. Souvenez-vous de la prière du publicain, « Ô Dieu, fais ma grâce et pitié de moi, je suis pécheur. » « Ô Dieu, fais-moi grâce, c'est ma prière, en même temps pécheur et en même temps justifié. » La prière est la beauté de Dieu, elle nous transforme à son image. Et Dieu contemple ma vie et reconnaît dans ma vie le fruit de sa grâce. Vous êtes des bien-aimés, nous sommes des bien-aimés. Alors je crois que, oui, plein de choses vous attendent, plein de choses se mettent en place. Merci Seigneur pour cela. J'allais dire, passer un maximum de temps. Je vais vraiment essayer cette année de me discipliner. Je dis bien, je vais essayer parce que, vous savez, j'ai fait tellement de promesses, tous les ans, j'ai pris tellement d'engagements et à chaque fois j'ai foiré. À chaque fois ça marche pas. Donc maintenant, j'avais même une Bible à une époque. J'ai la première page de ma Bible, Seigneur, je m'engage à, Seigneur, je te protège, je te promets. Mais après 4-5 ans, la page, je l'ai arrachée, je l'ai mise à la poubelle. Hein. Mais je désire en tous les cas, et j'espère que ce sera votre désir, pour que l'église d'Otigny devienne vraiment un phare dans cette région, dans ce Brabant. Puissions-nous être des hommes et des femmes de prière, qui passons du temps avec notre bien-aimé, avec celui qui nous attend, et qui se réjouira de notre présence, de nos silences, de notre écoute. Que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette année.